Alors, on va commencer par aborder la première partie qui sera sur les coûts du réseau. Donc, tout ce qui a trait au réseau électrique, c'est ça qu'on va s'attaquer ici. Dans la deuxième partie, on va aborder plus l'aspect politique de la chose. Donc, si vous avez des coûts sur toute la partie politique, eh ben, je vous conseille d'attendre la deuxième partie, la fin de la deuxième, pour les poser. C'est pour ça qu'elles sont répondues ultérieurement. Allons-y. Quel est le coût de l'électricité? Question à laquelle beaucoup adorent répondre avec un chiffre, ce qui est complètement stupide si on ne regarde pas la myriade d'hypothèses qui vont avec. Vous avez sans doute déjà vu passer des tas de chiffrages différents qui racontent tous des tas de choses contradictoires, avec des estimations pour les différentes sources d'électricité qui vont au moins du simple au quintuple. Probablement pas si simple d'y voir clair et comprendre qui a raison. Alors pourquoi est-ce que personne ne tombe d'accord sur le prix du nucléaire, du charbon ou de l'éolien? Pour continuer dans le cliché, certains d'entre vous ont déjà sans doute déjà entendu dire que le soleil et le vent sont gratuits. Et c'est totalement vrai. L'un et l'autre sont disponibles en quantité illimitée et n'appartiennent à personne. Pourquoi ne pas se servir d'une énergie gratuite et illimitée? Vous savez faire mieux que gratuit, vous? Ben certains ont fait mieux que gratuit, parce que grâce aux énergies renouvelables, le prix de l'électricité devient négatif de temps en temps. Oui, des gens sont prêts à payer pour qu'on leur prenne leur électricité, ce qui n'arriverait pas si on n'avait que du fossile ou du nucléaire. C'est dire si les renouvelables sont bon marché. Et alors, pourquoi le prix n'est pas stable? On installe ou on n'enlève pas si vite de nouveaux moyens de production sur le réseau. Alors, si le nombre d'unités de production reste constant d'une heure à l'autre, c'est qu'il y a d'autres paramètres qui doivent varier. Toute cette introduction pour vous dire que c'est normal si vous ne comprenez rien au marché de l'électricité. Il y a trop d'éléments bizarres et trop de déclarations contradictoires pour qu'on puisse s'y retrouver. En été que je vais ici à partir de parler des coûts du réseau électrique, et ce n'est pas le prix payé par le consommateur. Je ne vais pas ici expliquer les fluctuations du marché d'électricité qui peuvent faire erratiquement grimper ou baisser la facture. Le marché n'obéit pas que à des logiques de coûts des infrastructures et de marges commerciales, mais aussi des règles dictées par le gouvernement qui viennent changer le résultat. La situation des prix de l'hiver 2021, qui pourra encore se reproduire à l'avenir, aurait besoin d'explications supplémentaires qu'on verra donc dans la deuxième partie. Alors, pour commencer les explications, la première chose dont il faut se méfier, c'est l'unité choisie.
Alors, Nayosh,
Oui.
il y a un petit souci avec ton PowerPoint, puisque du coup, à chaque fois que tu passes un PowerPoint, on voit le contenu clignoter et après, ça fait tout blanc.
Vous ne voyez pas les diapositives que je souhaite montrer?
Non, du tout, malheureusement.
Voilà qui est fâcheux.
Là, ça y est, là, on le voit.
Alors, je vais essayer autre chose. Changer le mode de transmission.
C'est quand tu le mets en plein écran, je pense que ça passe sur un autre écran.
Sur une autre fenêtre, ouais.
Possiblement que c'est mieux comme ça.
Là, c'est beaucoup mieux.
Oui.
Très bien. Bien, vous avez sans doute regardé cette diapositive qui montrait des prix négatifs de temps en temps. Ça arrive. Et donc, reprenons. Alors, je vais reprendre les explications. Disais-je, la première chose dont il faut se méfier, c'est l'unité choisie. Parce que vous verrez régulièrement passer des chiffrages estimés en fonction de la puissance installée. Les politiques sont de grands spécialistes là-dedans pour pouvoir faire semblant de dire quelque chose de pertinent sans littéralement mentir. C'est une chose qu'il ne faut jamais faire. On ne compare pas les modes de production en fonction de la puissance installée, mais en fonction de la production réelle. La raison, c'est qu'ils n'ont pas le même facteur de charge. Une éolienne fonctionne en moyenne à 25% de sa pleine puissance. Une centrale à gaz peut fonctionner en moyenne à 80% de sa pleine puissance. Deux centrales de même puissance peuvent avoir une production d'énergie complètement différente. Pour avoir une comparaison pertinente, on compare les mégawattheures et pas les mégawatts. Mégawatt-heure. Parfois, certains font encore pire et donnent des prix sans aucun contexte. Parce que si je vous disais, par exemple, que le prix pour des noisettes est de 100 000 euros, est-ce que vous trouverez ça cher? Eh bien, aucune idée, parce que 100 000 euros, par exemple, pour combien de noisettes? Si on ne rapporte pas le prix au kilo, on n'a aucune information, en fait. Pareil pour l'électricité. Apparemment, ça ne dérange pas certains de donner des chiffrages énormes pour le démantèlement du parc nucléaire, sans rapporter ça à la quantité d'électricité produite. On sait combien de milliards ça va coûter, mais on ne sait pas combien d'électricité aurait été produite grâce à la centrale dans toute sa durée de vie. Donc la seule information qu'il faut en retirer dans ce cas-là, c'est que la personne qui fait ce genre de déclaration cherche à vous manipuler. Je veux viser personne en particulier, alors je ne vous dirai pas que c'est le genre d'argument que l'on entend à la France Insoumise. En évitant ces deux pièges, vous êtes déjà mieux préparé que la plupart des citoyens, honnêtement. Alors si on veut faire correctement le travail, ce qu'il faut regarder, c'est le prix moyen du système dans son entier. Oubliez tous ceux qui vous présentent le prix à un instant donné pour en faire une généralité. Soit ils n'ont rien compris, soit ils veulent vous embobiner. Et là, ça commence déjà à se compliquer. Il faut regarder le prix moyen, certes, mais pas au niveau mondial. Le prix moyen mondial d'un mode de production n'a aucune importance et ne signifie rien. On reviendra à regrouper ensemble des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Si vous voulez avoir un prix, il faut regarder ça à un niveau national, et ça donne ça. Non, il n'y a donc pas le prix de l'hydroélectrique ou le prix du solaire. Il y a de nombreux prix possibles, et ce qui vous intéresse probablement vous, c'est le prix que vous allez payer dans votre pays, pas le prix moyen mondial supposé. Autre chose intéressante à noter avec ce graphique, aucune source d'électricité n'est gratuite, même pas le vent et le soleil qui sont supposés l'être. Parce que c'est vrai que personne ne paye le soleil pour briller ou le vent pour souffler. Mais le gaz ou le charbon, ils sont tout autant gratuits. Personne n'a payé la Terre pour pouvoir créer des ressources fossiles, et personne ne l'a payée pour qu'elle accepte de nous les céder. Toutes les sources d'énergie sont gratuites. Ce qui fait qu'elles ont quand même un coût, c'est parce qu'il faut qu'on soit des machines qui vont nous permettre d'extraire ces sources d'énergie, les transformer en quelque chose d'utilisable, et de les transporter. C'est ça que l'on paye. Que ce soit biomasse ou nucléaire, il faut rémunérer la main-d'œuvre qui rend possible leur utilisation. Alors, oubliez les slogans sur l'énergie gratuite. Mais au moins, on a maintenant un prix pour les différents moyens de production par pays. Il serait intéressant de savoir pourquoi ce prix varie. Comment on fait le calcul? Il faut commencer par savoir ce qu'on ne compte pas. Chaque centrale a un impact plus ou moins élevé sur la santé, ce qui se traduit entre autres par des morts. Eh bien, ça n'a aucune importance, le nombre de morts compte pour zéro. Même si le coût santé n'est pas nul pour la société, souvent on ne saurait pas trop comment le comptabiliser, alors on ne le comptabilise pas. De même pour le réchauffement climatique, qui entraîne des coûts croissants pour la société, on ne sait pas trop comment le comptabiliser, alors ça compte pour zéro dans le prix final, même si toutes les centrales n'ont pas le même niveau de responsabilité. Contrairement à ce que l'on croit, il y a une grosse part d'arbitraire dans le prix. C'est pour partiellement corriger ça qu'une taxe carbone a été inventée. Et le montant de cette taxe, il est lui-même assez arbitraire. Alors qu'est-ce qu'on inclut dans le prix? La construction, la maintenance, la sécurité, les opérateurs, le combustible, le démantèlement, les déchets et le coût du capital. Qu'est-ce que le coût du capital? Parfois, il vaut zéro et parfois, c'est ce qu'il y a de plus cher. Pour répondre, il faut savoir qui paye. Si c'est l'État qui construit les centrales électriques, il utilise une partie du budget qu'il a à sa disposition pour les financer. Si c'est une entreprise privée qui veut se lancer sur le marché, elle n'aura souvent pas la trésorerie pour financer de but en blanc. Elle va donc aller voir une banque qui aura la gentillesse de financer le projet. Et nous savons tous que les banquiers sont des personnes philanthropiques qui ont à cœur. Très avantages du nucléaire. Même si les coûts de fonctionnement sont faibles, l'investissement initial est élevé. Il faut emprunter beaucoup d'argent pour construire une centrale. Le temps d'attente pour rentabiliser la centrale est long aussi. Il faut des années pour la construire et attendre encore au moins 10 ou 20 ans pour rentrer dans ses frais. Et il est possible qu'un jour, un parti gauche arrive au pouvoir et vous ordonne sans raison de fermer la centrale. Tout ça fait du nucléaire un investissement risqué pour une entreprise, donc pour la banque. Et les banques n'aiment pas le risque. C'est pour ça qu'en Angleterre, Hinkley Point fournit un mégawattheure au double du prix moyen français. Dans le cas des sociétés privées, ce n'est pas parfois la banque qui fournit le capital de départ, mais les investisseurs. Dans ce cas, il n'y a pas d'emprunt remboursé, mais des actionnaires à satisfaire avec des dividendes, ce qui revient même. Le prix du combustible, il a une influence variable sur le prix final aussi. Dans le cas du solaire, de l'hydroélectrique et de l'éolien, il est gratuit. Sauf que, suivant l'abondance de celui-ci, à l'endroit où sont placées les installations, la production totale et donc le prix final varie. Dans le cas du nucléaire, le coût du combustible représente moins de 10% du coût final et varie très peu. Pour le charbon ou le gaz, ça dépend énormément du prix du marché. Alors, évidemment, la construction de la centrale n'a pas non plus un coût bien défini. L'éolien offshore coûte beaucoup plus cher que l'éolien terrestre. Le EPR coûte plus cher que les centrales de troisième génération. Et celui de Flamanville a en plus des surcoûts de la tête de série. La barrage hydroélectrique coûte plus que l'hydroélectrique au fil de l'eau. Et le prix au mégawattheure va encore dépendre d'autres choses. C'est la durée de vie de la centrale. Si vous la faites fonctionner 40 ou 60 ans, vous devrez démolir et reconstruire le parc plus ou moins souvent. La durée de vie est une variable importante sur le prix final si les coûts fixes de l'installation représentent une grosse part du coût total. C'est le cas pour le nucléaire, le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique, et ce n'est pas le cas pour le pétrole, le gaz et le charbon. Suivant le type de centrale que vous avez, votre intérêt économique peut tout à fait être de la faire fonctionner aussi longtemps que possible, ou de la remplacer rapidement par un modèle plus performant. Alors, avec tout ça, quand on vous annonce le prix estimé de tel ou tel type de centrale, demandez-vous. C'est pour ces raisons qu'on obtient des tas de chiffrages très différents, et suivant les pays, et il y en a beaucoup qui aiment bien choisir celui qui les arrange. Avec tout ça en tête, dans le cas de la France, ça nous donne quoi? On a... Alors visiblement, reconstruire des centrales nucléaires, ce n'est pas l'option la plus compétitive. Plus on augmente la part des renouvelables dans le mix électrique, plus on baisse le prix de l'électricité, n'est-ce pas? Pour bien vérifier ça, je vous propose de comparer deux situations. Celle-ci. Nous avons un système fonctionnant uniquement avec du nucléaire et l'autre uniquement avec du gaz. Les deux fournissent une électricité à 70 euros par mégawattheure, ce qui est une hypothèse réaliste. À partir de ce point de départ, je vais les faire évoluer en mettant dans les deux cas 30% d'éolien avec un coût de 30 dollars le mégawattheure. Dans deux systèmes qui coûtent chacun 70 dollars le mégawattheure, on rajoute 30% d'éolien à 30 dollars le mégawattheure. Alors comment va évoluer la facture totale d'électricité? Je pense que vous ne l'avez pas deviné, mais ça ressemble à ça. Étonnant, non? Et c'est pas une erreur. Les deux systèmes ont le même prix de départ. On y ajoute la même quantité d'éolien au même prix, et pourtant, un système voit ses coûts augmenter, l'autre diminuer. Alors pourquoi ce comportement étrange? A priori, rien de ce que je vous ai expliqué jusque-là n'explique ça. La clé pour comprendre, c'est que l'on compare des choses qui sont incomparables. Un mégawattheure nucléaire ou gaz, ce n'est pas la même chose que un mégawattheure éolien. L'éolien, tout comme le solaire, ils sont intermittents. Et ça, ça change beaucoup de choses. Une règle très importante sur le réseau électrique, c'est que la demande doit d'électricité et que vos centrales intermittentes ne fournissent quand même rien. Dans ce cas de figure, il faut pouvoir compter à 100% sur vos centrales pilotables. La conséquence, c'est que même si vous ajoutez beaucoup de solaire, beaucoup d'éolien, ou un mix des deux, vous ne pouvez retirer ne serait-ce qu'une centrale pilotable du réseau. Vous avez toujours besoin de toutes vos centrales pilotables pour assurer la production les jours où la météo est contraignante. Vous aurez toujours autant de centrales à gaz ou toujours autant de centrales nucléaires, mais elles fonctionneront juste moins souvent. Et alors, comment ça se répercute sur les prix ? Pas comme ça. Dans le cas où vous n'avez que du gaz ou que du nucléaire, vous devez payer 100% du coût des centrales à gaz ou nucléaire. Dans le cas où vous rajoutez de l'éolien, vous devez toujours payer 100% du coût des centrales à gaz ou nucléaire, plus 100% du coût de l'éolien, moins le coût du combustible évité. Si on détaille le graphique des coûts, on comprend mieux ce qui se passe. Le prix du mégawattheure éolien ne doit pas être comparé au mégawattheure des modes pilotables. Il doit être comparé au coût du combustible. C'est comme ça qu'on obtient un résultat pertinent et qu'on peut savoir si le prix pour le consommateur va augmenter ou diminuer. Toutes les études qui comparent juste le prix des mégawattheures sans prendre en compte l'intermittence et donnent des résultats sur le même graphique, vous donnent des résultats un peu tronqués ou trompeurs même. Regardez le temps qu'il m'a fallu pour vous expliquer tout ça, en espérant avoir été clair, et vous comprendrez la confusion générale. Mais on n'a pas fini de compliquer le sujet. Il reste des choses à comprendre. Ce que j'ai dit sur la comparaison éolien-nucléaire ou éolien-gaz, ce n'est vrai que jusqu'à un certain point. Il existe une deuxième façon de comparer le prix des énergies renouvelables avec celui des moyens pilotables. Tant que vous avez une petite portion de vos moyens de production qui sont intermittents, ce que j'ai dit est vrai. Mais si vous intégrez plus de 30% de mode intermittent dans votre réseau électrique, la situation change. En l'état actuel, au-delà de 30%, le réseau électrique devient trop instable et les modes pilotables commencent à avoir du mal à stabiliser le réseau. Il faut recourir à la solution que vous connaissez tous, le stockage. Quand il y a un surplus, on le met dans les batteries et quand on a un creux de production, on les décharge. Le stockage permet de rendre pilotables les modes de production intermittents, à condition de dimensionner correctement, quand même. Dans ce cas, on ne fait plus la comparaison prix ENR, prix combustible, mais on compare en 1 pour 1, sans oublier bien sûr d'inclure le coût du stockage dans le prix des ENR. Et là, ça devient vite délicat. La plupart des gens pensent aux batteries lithium-ion comme on les trouve dans les smartphones, branchées en masse. Mais il existe aussi les STEP, le stockage power to gas, power to hydrogen, air comprimé, volant d'inertie, et encore d'autres méthodes plus exotiques. Toutes ont des coûts différents, ne s'utilisent pas sur les mêmes échelles de temps, et n'ont pas les mêmes rendements. Alors, chiffrer le coût du stockage devient très difficile et impose de poser encore plus d'hypothèses. De plus, la combinaison ENR plus stockage, tout le monde en parle, mais personne ne l'a jamais vraiment fait. Il n'existe pas un seul pays qui ait mis en place un système de stockage à grande échelle pour compenser l'intermittence. Il n'y a aucun retour d'expérience et on se balade dans le théorique pur. Pour donner une idée des ordres de grandeur dont on parle, si on devait utiliser en France des batteries électriques pour stocker l'équivalent d'une seule journée de production, la facture serait de plus de 400 milliards d'euros. Juste pour les batteries. Si on voulait un système 100% solaire ou 100% éolien, il faudrait être capable de stocker l'équivalent de plusieurs semaines de consommation. Alors le prix du mégawattheure ENR plus stockage, ça peut être 5 fois le prix du mégawattheure gaz. Peut-être 20 fois, peut-être plus. Mais on peut faire une objection à ce raisonnement. Il y a une troisième possibilité pour compter le coût des ENR. On pourrait aussi se dire qu'on se base sur un système électrique sans centrale pilotable et sans stockage. Dans ce cas, soit il y a du courant et on s'en sert, soit il n'y en a pas et on fait autre chose en attendant. Et riez pas, c'est en gros ce que propose le, dit-on, très sérieux scénario de l'ADEME qui est cité par tout le monde en permanence. Personne ne l'a lu visiblement, car sinon les gens se presseraient probablement moins pour le mettre en avant, mais bref. Si on accepte d'avoir un réseau électrique instable, au possible, avec des coupures de courant au moins hebdomadaires, alors on peut se passer des systèmes de backup. Il suffira de flexibiliser la demande. Ça signifie que vous allumez votre lave-linge à 4h du matin si c'est à ce moment-là que le vent souffle. Ça signifie que vous mangez vos repas suivant l'heure à laquelle vous pouvez utiliser votre four. Et les hôpitaux fonctionnent si la météo le permet. Dans un tel cas, il faudra allouer le coût de l'effet qu'a l'intermittence sur la société. Et je pense que personne n'a réellement fait d'études sérieuses pour savoir combien le PIB chuterait si les usines et les bureaux étaient conditionnés au rythme des caprices des centrales électriques. Sans doute une chute de plusieurs centaines de milliards en PIB annuel, allez savoir. Et c'est pas fini. Une chose dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, c'est la partie de transport du réseau. Ça aussi, il faut bien le financer. Les lignes très haute tension dans le pays doivent être dimensionnées pour pouvoir transporter, à minima, la puissance maximale que le réseau est susceptible de demander. En France, le réseau de transport est capable, en gros, de supporter une puissance de 100 gigawatts. Parce qu'on suppose, mais jusque-là, on a eu à peu près raison, que la demande ponctuelle ne dépasserait pas cette valeur. Alors ici, qu'on utilise des centrales au fioul, au charbon, nucléaire, hydroélectrique, géothermique ou au gaz, ça ne change rien. Dans tous les cas, vous devez construire le même réseau de transport. Autrement dit, vous devez installer le même nombre de lignes très haute tension. Sauf que ce n'est plus exactement vrai si vous avez beaucoup d'ENR intermittente. Au-delà d'un certain point, la production de pointe devient supérieure à ce que peut supporter le réseau. À ce moment, vous allez devoir le renforcer. C'est donc là aussi un coût qu'il faudrait allouer aux renouvelables, ce qui est rarement fait. On range plutôt ça dans une autre catégorie. Un réseau 100% éolien ou photovoltaïque en France obligerait à multiplier à peu près par 2,5 le dimensionnement et donc les coûts du réseau de transport. Et même si je vous ai sans doute déjà assommé toutes ces explications, je vais quand même parler d'un dernier paramètre, c'est la balance commerciale. Si la France veut faire son électricité avec des centrales à fioul, elle doit importer du pétrole. Si elle veut utiliser du nucléaire, elle doit importer de l'uranium. Si elle veut utiliser du solaire ou de l'éolien, elle doit importer divers métaux. Si elle veut utiliser du gaz, elle doit importer du gaz. En fait, il n'y a que l'hydroélectrique ou la biomasse où il y a vraiment la possibilité de se passer de commerce international. C'est aussi une donnée importante. Là, la question n'est plus de savoir quel est le montant du chèque, mais à qui l'adresser. Si vous achetez du matériel français à une société française qui le fabrique sur place, vous créez de l'emploi dans le pays et diminuez le chômage. Si vous achetez au même prix ce matériel à une société chinoise, vous favorisez l'emploi en Chine. Et ce principe n'est pas valable que pour la production d'électricité, ça s'applique partout de la même façon. Certains vous parleront du nombre d'emplois que ça pourrait créer telle ou telle filière si on la développait. Sauf que la quasi-totalité du temps, c'est tout simplement faux. Ils ont tous tort. Il ne faut pas que s'intéresser au nombre d'emplois créés dans le secteur, mais au nombre d'emplois créés ou détruits au total dans le pays. Pour faire simple, si votre alternative creuse le déficit commercial, vous aurez plus de chômage dans le pays. Si elle réduit le déficit commercial, vous aurez sans doute moins de chômage dans le pays. Pour faire 1 TWh, il vous faut au choix 300 000 tonnes de charbon, 25 tonnes d'uranium, 110 000 tonnes de gaz, ou quelques milliers de tonnes de cuivre, d'aluminium, de néodyme, d'acier, de cadmium, de tellure et autres pour le solaire et l'éolien, avec des variations suivant la technologie utilisée. Alors, conclusion de cette première partie. Il y a encore d'autres aspects dont on pourrait parler et qui peuvent avoir une influence sur le coût des technologies. Mais quand même, là, ce serait aller très loin dans le détail. Si vous avez déjà réussi à retenir tout ça, vous comprenez déjà pas trop mal le sujet. Les points intéressants à retirer, c'est que le prix dépend d'un grand nombre de variables, dont certaines sont fixées de manière totalement arbitraire. Les mégawattheures intermittents et pilotables ne sont pas du tout équivalents. Il y a des répercussions sur d'autres secteurs, Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens racontent n'importe quoi. C'est tout le souci de vouloir répondre à une question longue et complexe en donnant juste un chiffre. Et sur ce, j'en conclue la première partie. Et j'espère avoir réussi à me faire comprendre. Si vous avez des questions, c'est le moment.
Allez, j'en profite. Une petite question qui était liée à un de tes premiers graphes, où je te demandais en fait pourquoi, d'après toi, vu le graphe, où on voit le prix du solaire qui est très cher au Japon, et qui est un pays riche, et du coup, juste une question, pourquoi, enfin en gros, pourquoi au Japon c'est... Ouais, ben c'est si cher. À la rigueur, je peux comprendre sur le côté éolien, parce que peut-être compliqué, parce qu'il y a peut-être moins de vent, enfin, ou que sais-je, mais sur le solaire, je vois pas pourquoi.
En fait, typiquement, il peut y avoir quelque chose qui va jouer, c'est que le Japon, c'est un archipel. Et par exemple, si vous êtes aux États-Unis et que vous avez des centrales à charbon, bah, ça coûte pas cher, parce que vous extrayez le charbon sur place, et ensuite vous transportez le charbon jusqu'à la centrale qui d'habitude est juste à côté. Par contre, si maintenant vous avez votre centrale à charbon en Europe, et, bah, et que vous voulez importer du charbon des États-Unis, ça va coûter bonbon, parce que bah, le transporter le charbon, ça coûte cher. Donc, les coûts du transport, souvent, en fait, je les ai pas présenté ça comme autre variable, mais ça peut jouer. Le fait que le Japon soit un archipel, ça fait que bah, souvent, il va falloir transporter des trucs de loin, y compris du coup les matières pour construire les panneaux solaires. Et donc, ça va probablement jouer. Parce qu'il me semble, enfin, j'ai pas des détails spécifiques sur le Japon, mais il me semble que le Japon ne possède pas énormément de sites miniers pour extraire toutes les matières qui permettent, par exemple, de construire du solaire. Donc, il faut les apporter de loin, souvent, et donc, ça peut coûter cher. Ça peut aussi être... je connais pas non plus exactement l'ensoleillement qu'il y a au Japon, donc je ne sais pas à quel point ça peut jouer, si il y a une situation favorable ou pas. Il faut aussi voir que le Japon, c'est un pays, globalement, il me semble, où il n'y a pas beaucoup de place, donc ça veut dire que sans doute beaucoup de gens qui voudront mettre des panneaux solaires mettront des panneaux solaires sur le toit, et en fait c'est quelque chose qui ne se sait pas beaucoup, mais les panneaux solaires sur les toits, c'est quelque chose de très peu efficace, parce que souvent l'orientation du panneau solaire est loin d'être optimisée. Donc ça, c'est des choses qui peuvent jouer.
Merci pour l'info. Je continue alors dans les questions. C'était aussi une slide juste un petit peu après, là où tu faisais justement le taux où on voit le taux d'actualisation. La question, en fait, moi, c'est moi qui n'ai pas compris. Le taux d'actualisation, ça correspond à quoi? C'est le taux du prêt?
En gros, oui. Parce que si on n'a pas besoin d'emprunter de l'argent, bah, on n'a pas besoin de rembourser. Donc, il n'y a pas de taux d'intérêt. Donc, ça fait un taux d'actualisation très, très, très faible. Par contre, s'il faut faire un emprunt à 15% près de la banque, ça va vite monter.
C'est pour ça, parce que j'étais très étonné, j'avoue que ouais, des prêts qui montent à 20%, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas revu. Et ça, c'est quelque chose qui marche au niveau, bah, au niveau des banques. Quand tu fais des gros emprunts comme ça, c'est quelque chose qui peut être qui peut exister, quoi.
Nous, on n'est pas exactement à ce niveau-là de budget à l'habitude dans notre quotidien. C'est-à-dire que quand on veut investir dans une centrale électrique, ça peut se chiffrer un milliard. Donc, forcément, les banques, là, discutent sans doute d'une façon complètement différente avec les acteurs du marché. Ce n'est pas nous qui font des emprunts à la consommation. Ce n'est pas exactement le même genre d'emprunt.
Okay, ouais,
ça dépend de la situation du pays aussi, sans doute. Hein, parce que j'imagine qu'emprunter au Zimbabwe, c'est pas exactement la même chose qu'emprunter en Allemagne.
Oui, je fonctionne en effet de l'endettement du pays, etc. Ok, ben merci. C'est vrai que c'était pour être sûr de cette histoire de taux. Zilot, tu veux poser ta question ou je la pose?
J'avais une question sur le coût de production d'une centrale et d'une éolienne. En fait, c'est combien... combien aura coûté l'électricité qu'elle a produite, et en fait c'est par rapport à l'électricité qu'elle a produite. Enfin, du coup, en fait, ma question c'était, est-ce que le coût au total c'est par rapport à ce qu'elle a effectivement produit, ou est-ce que c'était par rapport à la capacité installée? Typiquement pour une centrale de admettons 1000 MWh, est-ce que ça serait plutôt. Genre, elle ne fonctionnerait pas tout le temps à 100%. Donc, un coup, elle produirait, je sais pas moi, 400, un coup, elle produirait 700 et ainsi de suite.
Attention, parce que du coup, c'est une centrale qui serait à 1000 MW.
Ouais, 1000 MW, pardon.
Et ce qu'on regarde, justement, il y a des. Vous allez voir des gens, des études, chiffrer le coût en fonction du mégawatt. Mais celui-là, on s'en fout très honnêtement. Ça n'a aucun intérêt.
Non.
Ce qui nous intéresse vraiment, et c'est ça qui est intéressant là par exemple dans ce graphique, c'est que c'est le coût par mégawatt-heure. Donc en gros, on prend l'intégralité de ce que va coûter le panneau solaire sur toute sa vie, c'est-à-dire le prix d'achat, le prix d'installation, le prix du nettoyage de temps en temps qu'il faut faire sans doute, ensuite le prix du démantèlement, enfin tout ça quoi. Ça fait une somme, en 30 ans on aura dépensé tant, et puis sur ces 30 ans, le panneau solaire au total, il aura produit tant, on fait une division, ça nous donne un coût par mégawattheure.
Et du coup, cette production prend la production réelle ou du coup théorique?
Ah bah, du coup, là en l'occurrence, ça prend la production réelle.
D'accord.
La production théorique maximale, c'est si on regardait ce qui se passerait si le panneau solaire produisait tout le temps à 100% de sa capacité de charge.
Oui, bah, parce que généralement. Il y a eu quelques documentaires, reportages ou autres qui comparaient justement des choses un peu aléatoires comme ça.
Ah mais justement,
l'hypothèse 100% de la charge, c'est pour ça que je voulais savoir.
Bah ça, en fait, c'est ce genre de reportage. Ce qu'il compte dans ces cas-là, c'est le coût au mégawatt. Justement, ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez un coût de la production, le coût de l'énergie fournie par un panneau solaire, s'il produit 100% du temps à 100% de sa capacité de charge, bah, c'est le coût rapporté au mégawatt. Le coût dont on n'en a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, c'est le coût au mégawatt heure.
Ok. Question de Cap, un truc que j'ai pas compris. Le gaz, c'est pas une énergie pilotable?
Bon, du coup, oui. bien sûr que c'est pilotable.
Ah, non, en fait, parce que je rebondis, c'était par rapport, en fait, quand tu faisais la comparaison, toujours pareil, où tu avais les deux, le graphe avec à la fois l'énergie pilotable avec le nucléaire et de l'autre côté le gaz, ce que j'avais pas compris, alors vas-y, ouais, quand tu arrives là-dessus, et que là, jusque-là, on comprend que voilà, c'est deux types d'énergie qui sont comparés. Et après, quand tu passes à ton autre graphe, oui, voilà, celui-là, c'est là en fait où j'ai pas compris, comme les deux sont pilotables, automatiquement, ça ne pose pas de soucis sur le côté, justement sur le fait que ce soit pilotable et donc du coup sur la baisse des rendements, puisque tu peux le piloter, il n'y a pas l'histoire du vent ou du solaire qui n'est pas là avec la nuit, etc. C'est ce que j'ai juste pas compris.
Bah, et... En fait, peu importe à quel point on met de l'éolien ou du solaire, les centrales nucléaires ou à gaz sont toujours pilotables, tout pareil, ça n'a pas changé ça.
Jusque-là, on est OK, ouais.
Là, je compare juste les coûts de quatre systèmes différents.
Ok, c'était d'un point de vue juste uniquement coût. Ok, autant pour moi. Et bien, du coup, on peut passer. Alors, du coup, oublie ma question, j'ai compris l'idée. Il y avait Jean, c'est juste une petite question qui fait un peu l'intro qu'on n'a pas faite, qui pose juste la question, est-ce que Nayosh peut se présenter? Je pense, pour juste savoir le comment t'es venu à faire rapidement le livre blanc, juste pour dire.
Tout simplement parce que j'entends régulièrement des tas de gens raconter à peu près n'importe quoi sur combien ça coûte de faire ci ou de faire ça. Alors je me suis dit, tiens, allons-y, mettons un peu d'ordre.
Donc c'est toi qui as fait le choix et c'est très bien. Tu t'es documenté et t'as fait le choix de faire ça.
Oui, en fait, je m'étais déjà documenté avant.
À mon avis, je pense qu'il demandait plutôt c'était de quel domaine tu viens pour parler de ce sujet-là. Genre, est-ce que tu travailles dans le milieu ou pas? Par exemple, Ginista travaille dans la centrale nucléaire comment elle s'appelle la centrale nucléaire en Finlande. Bref, t'as compris.
Oui, tout à fait. Moi, en fait, je travaille au quotidien dans une société qui gère les logiciels d'entrepôt, de gestion d'entrepôt.
HK. Du coup, est-ce que tu veux poser ta question ou on la pose pour toi?
HK, il est lent aujourd'hui. Bon, quel est l'impact de la géographie des contraintes d'implantation des installations électriques, par exemple la géothermie, l'éolien, en particulier sur le transport de l'énergie?
Ah bah, si on parle de la, en fait, ça va dépendre de la centrale, parce que si on parle de la géothermie, bah là l'impact il va être, en fait, ça va être juste la seule variable importante si on parle de géothermie. Parce que dans des endroits où il y a une dorsale comme en Islande, bah la géothermie ça va être en fait faisable, on va pouvoir en faire. Et dans un pays comme, en fait, si on prend la métropole française, l'Hexagone, bah, la géothermie pour faire de l'électricité, non, ça ne semble pas vraiment être faisable avec les moyens actuels. Ou alors peut-être que le prix du mégawattheure, ce serait de quelques milliers d'euros, mais ouais, rien vraiment qui soit envisagé. Par contre, si on prend la question du nucléaire, par exemple, la seule vraie variable qui va pouvoir jouer sur le niveau géographique, ça va être la quantité d'eau disponible. Tant que vous avez de l'eau, que vous êtes sûr d'avoir un apport d'eau suffisant pour votre centrale, bah, vous allez pouvoir l'implanter. Et après, le coût de quoi que ce... En fait, les autres coûts ne vont pas être si... Les coûts géographiques ne vont pas être si déterminants, parce que finalement, l'uranium, bah, vous avez pas besoin d'en utiliser beaucoup, mais, c'est-à-dire pour 300 000 tonnes de charbon ou 25 tonnes d'uranium, bah, vous faites la même quantité d'électricité. Donc c'est très peu d'uranium qu'il faut transporter. Donc finalement, les coûts de transport de la marchandise vont être très faibles. Et du coup, sur l'impact géographique, la plupart du temps, on construit une centrale ici plutôt que là. Alors, ça peut peut-être y avoir... des questions sur la stabilité du terrain, peut-être sur le risque de tremblement de terre. Mais au-delà de ça, ça va faire des ajustements assez mineurs. Suivant le type de centrale qu'on utilise, la géographie, ça peut être très déterminant ou pas du tout.
Ok, je reprends une autre question à la suite. Donc, je posais la question. Au niveau donc, d'une centrale, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la surface qu'elle permet de fournir en électricité? C'est-à-dire que par exemple, la distance n'est pas infinie. Une centrale qui se trouve par exemple à Marseille ne peut pas fournir des gens qui sont à Lyon en électricité. Du coup, est-ce qu'on aurait une idée de la zone au niveau kilométrique qu'elle peut couvrir?
Et ben, c'est complètement faux, parce qu'une centrale qui se trouve à Marseille peut même fournir des gens qui habitent à Lille. Ça ne pose aucun problème.
Alors, par contre, au niveau donc, de la perte dans le transport de l'énergie, elle est à peu près donc de 15% de RTE. Du coup, c'est pas très rentable.
Oula, non. Alors attention. Parce que en France, les transporter tant qu'on reste dans l'Hexagone, transporter d'un bout à l'autre l'électricité, ça fait des pertes d'à peu près 2%. Si RTE va parler de 15% de pertes, ça va sans doute être les conversions de très haute tension à haute tension, et de haute tension à moyenne tension, et de moyenne tension à basse tension. C'est peut-être ça qui va jouer sur les 15%. Mais ces 15%-là, vous allez les voir peu importe la distance de la centrale. Vraiment, le transport, c'est 2% de perte grand maximum sur le territoire français, la métropole. La distribution, c'est peut-être plus ça qui fait les 15%. Sachant qu'aujourd'hui, en gros, on transporte le courant jusqu'à un maximum de 3000 km. Au-delà, on ne fait pas trop. Parce que là, ça fait vraiment des pertes.
Ok, je vais vérifier ça. Autre question, quand EDF nous fait, ou Engie nous fait, dans notre facture, ne nous fait pas payer l'acheminement, ça correspond à quoi en fait?
Pardon?
Sur la facture en fait qu'on reçoit de notre fournisseur électrique, il y a marqué souvent acheminement d'électricité. Ça correspond à quoi en fait cette facture?
Je ne sais pas exactement le détail en fait, de la facture électrique française, mais bon, acheminement, ça veut dire réseau de transport distribution, quoi. Les câbles.
Oui, mais du coup, les câbles, ils sont. Enfin, pourquoi on paye les câbles? Parce qu'ils sont déjà là.
Ah bah oui, mais en fait, c'est. On étale les coûts, en fait. C'est comme les autres centrales. On va pas. Quand on installe un nouveau câble, on ne va pas monter d'un coup la facture électricité de tout le monde pour financer ces câbles. Non, on va regarder le câble, combien il coûte, combien d'années est-ce qu'il va servir avant de devoir l'enlever en moyenne. Et donc, ça nous donne un coût moyen. Chaque année, le câble doit nous coûter tant, en moyenne. Même si toutes les dépenses se font à un moment donné, les recettes se font de manière étalée.
Ok, donc c'est un étalement des coûts d'investissement de l'infrastructure.
Ouais. Donc, en gros, on est encore en train de rembourser les câbles qu'on a posés il y a des années. Mais j'ai prévu depuis le début, ça.
Ok, d'accord. Je passe à la question suivante, encore, c'est la dernière. Quand les distributeurs donc, font dans les factures une estimation, c'est-à-dire que exemple, le premier mois, ils font un relevé, le 3 mois après, ils font une estimation. Est-ce que le consommateur il n'est pas lésé parfois parce qu'il y a des taux de variation de coût d'énergie qui changent, il y a des taxes qui changent. Donc est-ce qu'il y a un fait ou alors c'est peanuts?
Bah, ça dépend beaucoup tout simplement de la variation du coût de l'électricité. Historiquement, entre janvier et décembre, le coût de l'électricité il est assez prévisible. Enfin, d'habitude, on ne s'attend pas à ce qu'il soit multiplié par 5 d'un moment à l'autre. Mais dernièrement, ça a changé. Mais ça, on va voir ça tout de suite. Est-ce que le consommateur est lésé? Ben, en fait, si on fait des estimations, si un trop perçu, éventuellement, j'imagine que les contrats remboursent après ou font un avoir pour l'année suivante.
Ok, du coup, on enchaîne avec les autres questions. Yaourt qui demande « Comment voyez-vous l'avenir énergétique de la France à court terme ?»
Au-delà du réseau électrique, enfin, au-delà juste de l'énergie électrique.
Bon, je pense que c'est pour l'électrique, ouais.
Ah, juste pour l'électrique. Bon, a priori, la part du nucléaire va baisser. La production de l'hydroélectrique baissera légèrement, sans doute. Ce qui est prévu, c'est que du coup, le solaire augmente fortement. L'éolien, offshore et terrestre, sont supposés augmenter aussi. Mais il y a des incertitudes qui sont liées à un peu des politiques réactionnaires, mais sans être de droite, c'est-à-dire autrement dit, qui ne planifie pas l'avance, mais qui réagit suivant l'évolution de la situation. Donc ça enlève quand même beaucoup de visibilité à long terme. Autrement dit, enfin, cette année, on avait fermé des centrales à charbon, et puis cette année, on a décidé de finalement rappeler tous ceux qui étaient partis à retraite pour leur dire, bah, si bien ici, finalement, on va rallumer les centrales à charbon. Donc on peut toujours être surpris.
Je voulais que déjà trop prenne la parole, mais du coup, je passe la question suivante.
Non, vas-y, je le fais si tu veux.
Oh, vas-y, je te laisse.
Faites-le ensemble.
Question peut-être hors sujet. Existe-t-il des batteries accessibles au grand public sur lesquelles on peut brancher une bouilloire, un frigo ou une plaque chauffante?
Oula, oui, en fait, il y a des... Je ne sais pas vraiment le sujet, mais bon. Il y a des installations typiquement pour ceux qui cherchent à être autonomes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont envie d'installer leur panneau solaire sur le toit et de se débrancher plus ou moins du réseau électrique. Et du coup, ils chargent leur batterie. Mais soit c'est les panneaux solaires qui fournissent leur maison, soit c'est l'énergie stockée dans leur batterie. Donc oui, ça existe. Je sais que, par exemple, il y a Tesla qui fait des trucs, fait une grosse batterie qu'on met au mur, qui charge. D'autres entreprises, après je ne suis pas vraiment les noms honnêtement.
Alors, question de Jim, est-ce qu'il vaut mieux se chauffer à l'électricité ou au gaz?
De quel point de vue? Suivant quels critères?
Alors ça, il faudra être plus précis. Au vu de toutes ces données, y a-t-il un scénario plus ou moins idéal dans une production bas carbone, pérenne et raisonnable niveau coût?
Alors là, je vous incite fortement à aller regarder le rapport de RTE qui est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est globalement ce qu'il y a de plus fiable de tout ce qu'on a pu voir ces dernières années, c'est le plus précis. Et le scénario, il y a 6 scénarios qui inclut plus ou moins de nucléaire et plus ou moins de renouvelables, Le scénario le moins cher, c'est celui qui inclut le plus de nucléaire, et le scénario le plus cher, c'est celui qui inclut le plus de renouvelables.
Les nouvelles générations de réacteurs nucléaires. Point d'interrogation. Quelle est la question du coup? Est-ce que tu pourras préciser ta question, Patwick, s'il te plaît?
Oui, là, je réponds oui.
Bah sinon, au niveau questions, je crois qu'on a fait le tour. Je pense que tu auras plus de questions la deuxième partie sur la politique. À mon avis, ça va être beaucoup plus funky.
J'en profite, juste une petite remarque. Tous, s'il vous plaît, dans le fil, que des questions, les commentaires, vous pouvez les mettre directement dans le salon, dans le channel. Ouais. Que des questions, et des questions, s'il vous plaît, qu'on peut poser, tout simplement, et qui sont compréhensibles. Merci d'avance.
Pour les décennies à venir, peut-on donner une tendance du prix de l'électricité dans le monde? Pourrait-on avoir des différences de tendance entre régions? Régions du monde, entre régions de France, d'Ibérie?
Parce que si c'est les tendances pour le monde, oh là là, les
tendances entre régions du monde. Diverses.
Voici à quoi ça ressemble dans le monde.
J'avais une petite question. On est protégé par le bouclier jusqu'à 2023.
Bah écoute, je vais répondre oui.
Je voulais savoir si ça marche que pour EDF, GDF et les concurrents sont appliqués aussi, ou est-ce qu'il faut tous passer chez EDF, Engie?
Je vais en parler dans la deuxième partie.
La question de Patrick, du coup, c'était pour les nouvelles générations de réacteurs nucléaires, est-ce que c'est une solution?
Mais à quel problème?
J'imagine solution à... problème de production électrique qu'on a actuellement, c'est la montée des prix, j'imagine aussi.
C'est absolument pas une solution à la montée des prix, parce qu'en fait, la montée des prix, elle a lieu là tout de suite. Et puis, si on décide de là tout de suite se lancer dans les constructions de réacteurs nucléaires, les premiers, ils seront sans doute construits dans 10 ans, 15 ans. Donc, là tout de suite, le problème qu'on a maintenant, nous, ça va pas aider. Mais de toute façon, les installations, les centrales électriques ont une durée de vie. Donc si, au bout d'un moment, il faut les démanteler, il faut les débrancher du réseau. Donc si on ne veut pas se retrouver sans rien, il faut forcément remplacer par autre chose. Donc ce autre chose, oui, ça peut tout à fait être des centrales nucléaires de prochaine génération.
Et du coup, par rapport au problème écologique, est-ce que ça peut être une solution?
De construire des nouvelles centrales nucléaires de prochaine génération? Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qui nous a niveau extraction de matière et émission de polluants, le nucléaire, c'est franchement ce qu'on a de mieux à ce niveau-là. C'est la meilleure source d'énergie. Donc, si on peut se reposer sur du nucléaire, ça permet de réduire grandement les impacts environnementaux de la production électrique. En l'occurrence, si en France on construit des réacteurs nucléaires, ça a du nucléaire pour remplacer du nucléaire, donc ça va sans doute pas baisser grand chose. Ça va juste maintenir le niveau de nuisance à un niveau minimal, quoi.
J'ai l'impression que c'est tout pour les questions pour l'instant, donc tu peux passer à la deuxième partie.
D'accord. J'annonce, je pensais que ça durerait moins d'une heure, mais en fait, finalement, ça va durer sans doute bien plus. J'espère que vous n'avez pas trop baillé. Alors, est-ce que tout le monde peut encore voir ce que je montre?
Ouais.
Oui.
Parfait. Alors, on va pouvoir reprendre. Et donc, je vais vous parler ici du prix de l'électricité payé par le consommateur européen. Je me concentre ici sur les parties commerciales et administratives qui influencent la facture. Les facteurs physiques que j'ai détaillés sont vraiment regroupés dans la première partie. Alors, si vous voulez avoir à nouveau des explications, bah, je vous inciterai à relire le sujet plus tard. Alors, là, je vais parler des marges que se font les producteurs qui se rajoutent au coût précédent pour donner la facture finale du citoyen. Donc là, maintenant, vous allez pouvoir comprendre pourquoi l'électricité a parfois un prix négatif et pourquoi votre facture ne tombe quand même jamais sous zéro. Alors, après les chocs pétroliers, la France a voulu se débarrasser de sa dépendance trop forte au pétrole et a construit très vite plein de centrales nucléaires. Rien à voir avec l'écologie à l'époque, il fallait juste ne pas avoir à subir les fluctuations des relations internationales et avoir de l'énergie pour pas cher. Et ça, on va reparler. Nous avions donc beaucoup de nucléaire, quelques barrages, du charbon et le reste étant plutôt marginal. A noter que l'on parle ici uniquement de la métropole. Parce que les dom-toms, ils ont des particularités. Et ça aussi, on va en reparler. Mais l'État, à l'époque, a surestimé la demande en électricité future et vendre une part de la production aux voisins. Et grâce à ça, la France s'est retrouvée à être le premier pays exportateur d'électricité au monde pendant de nombreuses années. Ce qui est aussi lié quand même à la géographie. Sauf que entretenir autant de centrales, ça finit par coûter cher si on ne s'en sert pas assez. Et puis on s'est rendu compte que les énergies fossiles, bah, c'était pas idéal, puisqu'il paraît qu'il y a un sujet climatique qui inquiète certaines personnes. On a petit à petit fermé le surplus inutile pour faire des économies. Alors, il ne restait plus que deux centrales à charbon au début du mandat de Macron dans l'Hexagone. C'est économiquement parlant une bonne décision de ne pas avoir trop de centrales à entretenir si elles fonctionnent uniquement en hiver de temps en temps. Et puis on a voulu diversifier l'approvisionnement électrique en intégrant de plus en plus d'éolien et de solaire. Alors, ceux qui ont bien retenu les explications de la première partie comprennent que cette idée est économiquement déjà moins bonne dans la situation française. Il y a jusqu'à quelques années, l'État s'occupait de tout ce qui concerne le réseau électrique. L'État possédait les centrales, le réseau de transport et de distribution, il gérait la vente aux particuliers et aux entreprises, et tous les bénéfices tombaient dans les caisses publiques et tous les coûts étaient pris en charge. Les plus experts du sujet ici ont remarqué que cette situation porte un nom bien spécifique, c'est un monopole. Et c'est mal. Heureusement, l'Union européenne, activement soutenue par nos dirigeants successifs, est venue nous sauver de ce terrible péril. Un remède simple, la concurrence. Alors, plusieurs mesures ont été prises dans le but de libéraliser le marché. Premièrement, EDF n'a plus le droit de s'occuper de tout, uniquement de la production. La partie transport et distribution est laissée en totalité à RTE, scission de EDF pour l'occasion. Nous avons deux entités distinctes. Ça a pour mérite de rendre compliqué la communication et la coordination au sein du secteur, ce qui est sans doute utile pour une raison ou pour une autre. Deuxièmement, EDF n'est plus la propriété exclusive de l'État. On ouvre l'entreprise aux actionnaires. L'État reste majoritaire et très majoritaire dans ses parts, mais on partage une partie des bénéfices avec le privé. Troisièmement, mesure la plus importante, on va permettre à des entreprises de spéculer sur le marché de l'électricité. C'est la fameuse concurrence. Il y a un objectif derrière tout ça, faire baisser le prix de l'électricité grâce à ce fameux marché libre et non faussé. Jurez, ça va marcher. L'électricité va devenir moins chère. Il y avait aussi un projet Hercule, Made in Macron, qui prévoyait de scinder EDF en trois parties, mais il a été abandonné, au moins provisoirement, parce qu'il est interdit par l'UE. Alors pour bien voir à quel point le marché est libre et non faussé, il faut se pencher sur la concurrence qui a été introduite. Voilà le fonctionnement avant la libéralisation. Ça marchait comme ça. Mais après, dans ce cas, le consommateur a un contrat à EDF et lui achète son électricité au tarif en vigueur. Jusqu'à là, pas bien compliqué. Mais après la libéralisation, ça se passe comme ça. Il y a deux possibilités. Soit le consommateur garde son contrat chez EDF, rien ne change. Soit Il passe un contrat avec un fournisseur alternatif qui lui-même achète son électricité à EDF. C'est important à noter, il n'y a aucun fournisseur alternatif qui produit l'électricité qu'il va vendre à ses clients, ou alors de façon très marginale. C'est toujours EDF qui s'occupe de la production, mais si vous voulez, vous pouvez maintenant passer par un grossiste. Ce système ne laisse en fait aucune chance aux concurrents d'exister, puisque en réalité, ce sont juste des grossistes. Quel intérêt pour le consommateur d'aller chez un fournisseur alternatif, puisque celui-ci se fournit de toute façon chez EDF. La qualité de service n'est pas meilleure, et les prix sont forcément plus bas chez EDF, puisqu'il y a un intermédiaire en moins qui cherche à se faire une marge. Le mieux que les concurrents pourraient faire, théoriquement, c'est s'aligner sur les prix de EDF, ce qui signifie alors une marge nulle, et ne pas gagner d'argent. Vendre l'électricité moins cher que EDF, ça signifie toujours vendre à perte. Et puis, de toute façon, pourquoi EDF irait vendre son électricité à ses concurrents? Si les concurrents n'ont pas d'électricité à acheter, ils ne peuvent pas non plus en vendre et ne peuvent pas fournir à leurs clients. EDF ne va pas aider la concurrence à lui prendre des parts de marché. Donc ce système, en fait, n'a aucune chance de fonctionner. Mais ne vous inquiétez pas, les responsables européens ont pensé à tout. Il y a une solution pour régler ça. EDF est légalement obligé de vendre entre un quart et un tiers de sa production à ses concurrents à perte. Comme ça, les concurrents ont de l'électricité à vendre à leurs clients et peuvent même se faire une marge dessus, ce qui leur permet de ne pas faire faillite. Leur utilité n'a pas changé, elle est toujours nulle. Aucune plus-value apportée. J'aimerais faire un petit point sémantique ici. J'ai quelques doutes sur la pertinence d'utiliser le mot libéralisation pour décrire ce qui s'est passé. Nous avons ici un marché contraint et faussé, ce qui est l'exact opposé de ce qui est annoncé. Dans un marché libéralisé, un acteur n'a pas l'obligation de vendre ce qu'il produit à une entité s'il ne souhaite pas le faire, et certainement pas à perte. Dans un marché libéralisé, on ne force pas une entreprise à se scinder en deux pour abandonner une partie de ses activités. Ce qui se passe ici, c'est la subvention et le maintien en vie d'acteurs privés par des fonds publics. On peut aussi dire que c'est une extorsion, en bande organisée avec le consentement de l'État. Mais une bonne description de la situation, ce sera certainement pas libre et non faussé. Parenthèse fermée. Le reste de l'électricité que EDF n'est pas obligé de vendre à perte doit suffire à assurer sa pérennité. Mais vous vous rendez bien compte qu'avec ce système, il y a plus de dépenses et moins de recettes pour EDF. Et vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que EDF a fini par avoir quelques difficultés financières et a dû être renfloué par l'État. Mais il n'y a pas que EDF qui a rencontré des difficultés. Une grosse partie des fournisseurs alternatifs ne gagnaient pas assez et se sont retrouvés en difficulté financière. Les 25 à 33% d'électricité vendue au rabais ne suffisent pas toujours à couvrir tous les clients des fournisseurs. Dans ce cas, il faut acheter plus d'électricité et à prix, et cette fois pas à prix cassé. Mais quand on achète de l'électricité chère à EDF, ça ne signifie pas qu'on va la revendre plus chère aux clients qui ont des tarifs fixés à l'avance par leur contrat. Et évidemment, dans le marché libre et non faussé, un acteur qui n'est plus rentable disparaît. Mais ce serait dramatique si ça devait arriver. Rendez-vous compte, il n'y aurait plus de concurrence. Les directives européennes sont pourtant claires, il doit y avoir des concurrents. C'est pas optionnel. En plus de renflouer EDF, il a fallu trouver une solution pour empêcher la concurrence de faire faillite. Solution simple, le gouvernement a décidé d'augmenter la quantité d'électricité que EDF doit vendre à perte à ses concurrents. Mais comme ça augmente encore plus les problèmes financiers de EDF, il faut compenser. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'augmenter de manière générale le prix de l'électricité pour tout le monde. Nous sommes donc dans une situation où le prix de l'énergie monte afin de maintenir en vie une concurrence dont l'existence a pour but de faire baisser le prix de l'énergie. Je rappelle que c'est ça l'objectif de départ. On fait monter le prix de l'énergie pour que le prix de l'énergie baisse. Et arrêtez de penser que c'est stupide, ce sont les décideurs européens qui ont mis en place ce système, ils sont beaucoup plus intelligents que vous. Et vous avez ici le résultat de cette politique. Nous sommes dans une situation où plus il y a de concurrence, moins il y a de clients particuliers chez EDF, et donc plus les prix augmentent. Mais il serait injuste de dire que la totalité de cette hausse est due à l'existence des fournisseurs alternatifs, parce qu'il y a encore d'autres choses qui ont changé ces dernières années. Le gouvernement a décidé de faire évoluer le mix énergétique pour des raisons que la raison ignore. Il faut plus de renouvelables. Mais au moment où cette décision a été prise, le kilowattheure en sortie de parcs éoliens ou solaires coûtait bien plus cher qu'aujourd'hui. Il fallait des incitations sous forme de subventions pour attirer les investisseurs. L'État est encore une fois venu au secours du secteur privé par l'intermédiaire de la CSPE. C'est la contribution au service public de l'électricité. Une taxe que vous payez dans votre facture sur chaque kilowattheure que vous consommez. La CSPE, elle n'est pas récente, mais elle a augmenté. La partie verte sert à réduire les coûts de l'électricité dans les dom-toms, parce qu'eux, ils n'ont pas de centrales nucléaires. L'approvisionnement électrique est plus coûteux à cause de la situation géographique. Alors, pour leur éviter d'avoir des factures énormes, la métropole verse des subventions. C'est ça, les ZNI. La partie rouge du graphique n'a pas bougé tant que ça, et ça concerne des aides sociales. Elles couvrent le financement des tarifs de première nécessité. Il nous reste donc surtout la partie bleue, celle qui sert à financer les subventions des renouvelables. Cette partie-là, en revanche, elle a bougé depuis Sarkozy. Jusqu'en 2017, à minima, les renouvelables sont responsables de pas loin de 60% de la hausse des prix. Mais il n'y a pas que la CSPE comme taxe sur l'électricité. Pour des raisons environnementales, que je considère personnellement comme valables, nous avons une taxe carbone qui vise tout particulièrement les combustibles fossiles. Pour chaque tonne de CO2 émise, il faut payer. Plus vous utilisez des procédés polluants, plus vous devez payer cher. Pollueur-payeur. Cette taxe n'a eu depuis sa mise en place que très peu d'effets. Et en fait, c'était un sujet pour personne, pour la simple raison que la tonne de CO2 était très bon marché. Mais vous remarquerez tout de même que le prix a connu une jolie augmentation récemment. Alors, on pourrait se dire qu'en France, le prix de la tonne de CO2 n'a absolument aucune importance, puisque l'électricité est quand même décarbonée à 90%. Si 10% des moyens de production, donc à savoir le morceau gris, deviennent plus chers, ça ne devrait pas se voir tant que ça sur la facture. C'est un raisonnement intuitif qui se tient, et ce serait totalement vrai avec l'ancien monopole d'État. Sauf qu'il existe encore une règle dont je n'ai pas parlé. Alors, dans le cas de l'électricité, nous sommes sur un marché qui a une règle d'or absolument indépassable, comme je l'ai dit. On produit toujours ce que l'on consomme, jamais plus et jamais moins. On ajuste la production en direct. Ce qui rentre sur le réseau doit être égal à ce qui en sort à tout instant. Et c'est la demande qui dicte l'offre. On ne stocke rien. Cette contrainte technique impose d'organiser la production. Si on veut éviter que le réseau s'effondre, on ne peut pas laisser tout le monde produire n'importe quelle quantité à n'importe quel moment. C'est pour ça que...
Je ne sais pas comment ils arrivent.
Qui a le droit de produire à quel moment? Ce problème n'existait pas lorsqu'il y avait un monopole d'État. Mais maintenant qu'on a plusieurs réacteurs, il faut choisir. EDF se contentait d'ajuster sa production en fonction de la demande. Mais là, il faut se mettre au diapason avec les autres. C'est tout particulièrement vrai depuis que le solaire et l'éolien injectent de l'électricité sur le réseau quand ils veulent. On a décidé qu'il fallait privilégier l'utilisation de certains moyens de production avant d'autres. Toutes les centrales ne produisent pas de l'électricité au même prix et les prix respectifs sont à séparer en deux parties. La première partie, ce sont les coûts fixes. Que vous utilisiez votre centrale à son plein potentiel ou que vous ne vous en serviez jamais, ça ne change absolument rien au coût de construction. On aura exactement le même montant sur le chèque à signer qui servira à payer les ouvriers de chantier, les matériaux de construction ou la démolition du bâtiment à la fin de la vie. Par contre, si votre centrale à gaz ne s'allume jamais, vous n'aurez jamais besoin d'acheter de gaz. Inutile d'acheter de l'uranium si vous n'allumez jamais la centrale nucléaire. Les frais de fonctionnement, que l'on appelle coûts marginaux, dépendent de l'intensité d'utilisation. Une part des coûts varie avec l'utilisation, une autre est fixe et indépendante de l'utilisation. Alors nous allons donc maintenant nous intéresser à une seule chose ici, le coût marginal. Donc savoir les coûts d'utilisation. J'ai mis ici schématiquement les coûts marginaux de différents systèmes. Il n'y a pas de valeur en ordonnée, c'est purement pour l'exemple. Les éoliennes ne coûtent rien au quotidien, quasiment. Il faut rajouter un peu de lubrifiant de temps en temps pour agresser les rouages, ça donne un coût marginal très bas. Le nucléaire ne coûte pas grand-chose à faire fonctionner, parce que le coût du combustible représente en France que 5%, à peu près. Même pas. C'est la construction de la centrale et les mises à niveau de sûreté qui concentrent le plus de coûts. Le coût complet du charbon est inférieur à celui nucléaire, mais le coût marginal du charbon est plus élevé tout simplement parce que le charbon coûte bien plus cher que l'uranium pour une même quantité d'électricité produite. Et le mètre cube de gaz coûte encore plus cher. Alors dans ce classement, peu importe le coût total, que l'on regarde ici, c'est uniquement le coût marginal, à savoir les coûts de fonctionnement. Alors maintenant, pour répondre à la question posée, qui a le droit de produire quand ? On va parcourir dans l'ordre les moyens de production avec leurs coûts marginaux dans le graphique. Au début de notre exemple, le vent souffle beaucoup et la consommation est faible. Les éoliennes, toutes seules, suffisent à couvrir la demande en électricité. Les autres centrales ne sont pas allumées. Ça nous donne un coût d'électricité faible. Un peu plus tard, la demande en électricité augmente. Les éoliennes ne suffisent plus à satisfaire l'offre. On va donc allumer les centrales avec les coûts marginaux les plus faibles après les éoliennes, à savoir les centrales nucléaires. Le prix du marché va devoir augmenter pour que les centrales nucléaires ne produisent pas à perte. Le prix de tout le marché électrique s'aligne sur le prix du nucléaire. Les éoliennes encaissent la différence et se font une jolie marge sur l'électricité vendue. Les autres moyens de production plus chers continuent de dormir. Ah, excusez-moi. Voilà, ça ressemble à ça. Le graphique est de telle façon. Alors, petit à petit, la consommation augmente et donc on allume de nouvelles centrales nucléaires, les unes après les autres. Et encore plus tard, la production ayant suffisamment augmenté, après avoir allumé toutes les centrales nucléaires, il n'y a plus assez de courant pour tout le monde. Donc, on va allumer les prochaines sur la liste, à savoir les centrales à charbon. Dès que la première centrale à charbon s'allume, tout le marché ajuste son prix à la hausse pour s'aligner sur celui des centrales à charbon. Le nucléaire et l'éolien augmentent leurs marges respectives et ils empochent la différence. Petit à petit, le temps passe, la consommation continue d'augmenter, on allume de plus en plus de centrales à charbon pour satisfaire la demande, et le prix d'électricité ne bouge pas. Et puis, on arrive à la situation où toutes les éoliennes, toutes les centrales nucléaires et toutes les centrales à charbon tournent à pleine puissance, mais ça ne suffit toujours pas à couvrir la demande. Et là, on allume la première centrale à gaz. Et du coup, vous aurez deviné ce qui se passe. À ce moment-là, au moment où on allume une centrale à gaz, le prix de toute l'électricité pour tout le monde s'aligne dessus, ce qui augmente les marges. À ce moment, ceux qui ont des coûts de fonctionnement faibles, ils se font un paquet d'argent. Ça veut dire qu'il suffit qu'une seule centrale à gaz soit allumée, et c'est l'intégralité de l'énergie qui fait un bond dans son prix. La quantité d'énergie fournie par cette centrale à gaz n'a aucune importance. Que le gaz couvre 60% ou 0,1% de la demande, ça ne change rien. En tous les cas, l'électricité coûtera ce que coûte le fonctionnement des centrales à gaz. Dans ce contexte, l'augmentation de la taxe carbone, ça prend des proportions très différentes. Cette gestion du marché de l'électricité, c'est une autre conséquence. Il existe des moments où certains pays ayant beaucoup de renouvelables, non pilotables, au hasard l'Allemagne, ils produisent beaucoup plus que ce qu'ils consomment. Et on ne débranche pas les éoliennes quand il y a trop de vent. Rien n'est prévu en ce sens pour l'instant. On ne peut pas se permettre de produire trop. L'offre doit toujours être égale à la demande. Alors pour éviter de griller le réseau, on doit trouver le moyen de se débarrasser de ce surplus. On baisse les prix. À tel point qu'ils finissent par devenir négatifs si vraiment personne n'est intéressé. On refile la surproduction aux pays voisins dans ces moments. Mais vous attendez pas à avoir l'effet sur votre facture, parce que c'est quelque chose qui se négocie au niveau des fournisseurs, pas avec les particuliers. Alors dans tout ce joyeux chaos, on en arrive au quinquennat Macron, les années les plus récentes. Avec tout ça, l'électricité en 2017 est déjà bien plus chère que 10 ans avant. Notre président décide en 2020 de fermer définitivement Fessenheim, parce qu'après tout, il avait promis. Alors jusque-là, les fermetures successives des centrales fossiles, ça ne posait pas vraiment de problème. Retire des moyens de production superflus. Sauf qu'avec Fessenheim en moins, la France se retrouve très juste en des moments de pointe, même si le gouvernement assurait que tout se passerait bien. Eh bien, ça n'a pas manqué. L'hiver de la même année, de courtes coupures de courant local arrivent. Nous sommes donc dans une situation où on a besoin de tous les moyens de production disponibles en période de pointe. Et ça inclut le gaz. On avance un peu, et on arrive en 2021. Parce qu'en 2020, le Covid avait fait s'effondrer la demande énergétique dans certains secteurs. Mais en 2021, la consommation reprend. La demande en gaz monte au niveau mondial, ce qui entraîne un petit stress sur l'offre. Catastrophe, le prix de l'électricité s'envole depuis l'automne dernier. Ce qui pose deux énormes problèmes. De un, il y a bientôt des élections, et on ne peut pas se permettre de les perdre. On ne va pas prendre ce risque. Et de deux, la concurrence est en danger. Et vous comprenez qu'avec le prix de revente de toute l'électricité qui monte fortement, alors que seuls les coûts des centrales à gaz très minoritaires montent, EDF a réalisé un joli bénéfice cet hiver. En revanche, les consommateurs et les fournisseurs alternatifs, eux, ils trinquent. Et il a fallu, dans l'urgence, distribuer, il y a à peu près un an, quelques chèques d'énergie de 100 euros, payés par les impôts évidemment, à la population pour qu'elle puisse faire face à la crise et acheter de cette façon leur vote. Coût total pour l'État, apparemment 600 millions. Mais ça n'a pas suffi. La facture d'électricité a quand même grimpé généreusement. Malgré toutes les mesures prises les années précédentes pour subventionner l'existence de la concurrence, et du coup assurer sa survie, on a quand même eu des faillites. Rappelez-vous, on ne peut pas se permettre d'avoir un système sans concurrence. L'UE l'interdit. Il a fallu à nouveau les sauver, en catastrophe, en tout cas, empêcher encore plus de faillites. Une règle exceptionnelle a été mise en place pour cette année, du coup. EDF a vendu un tiers de son électricité à perte comme prévu. Jusqu'à rien ne change. EDF et le marché européen ont ensuite vendu ce qu'il manquait aux concurrents au prix du marché. Toujours pas de changement. Mais EDF est maintenant légalement obligé de racheter à 300 euros par mégawattheure une part d'électricité vendue à ses concurrents. Pour ensuite être à nouveau être légalement obligé de la revendre à 46 euros. EDF est obligé de vendre, puis de racheter, puis de revendre, sans avoir le droit de négocier le prix à aucun moment. Et toute cette opération coûte 16 milliards d'euros à EDF. Et l'État a gentiment accepté d'en prendre la moitié à sa charge, c'est-à-dire nos impôts. Alors ça y est, on a fini. On a fait le tour de la mauvaise gestion et des problèmes. Non, pas du tout. Ça, c'était la situation jusqu'en janvier. Le mégawattheure pouvait monter à 300 euros. Mais on a encore de la marge à la hausse. Récemment, une guerre qui a été déclenchée en Ukraine. Ça fait flamber les prix du pétrole et du gaz, entre autres choses. On a atteint un marché de l'électricité qui se négocie à 500 euros par mégawattheure, en moyenne, depuis des mois maintenant. 24 milliards d'euros de dépenses pour l'État pour garder les prix de l'électricité, du gaz et de l'essence bas. En plus des 8 milliards extorqués à EDF, parce que rien ne serait trop cher quand une réélection est en jeu, surtout avec l'argent des autres. Et malgré tout ça, les prix ont fini par augmenter pour les particuliers. C'est pas terminé. Si un jour Poutine décide qu'il en a marre de nos sanctions, il pourrait arrêter les exportations d'hydrocarbures. Il semblerait qu'on se rapproche. D'autres en Europe appellent les États à boycotter ces importations de toute façon. On ne sait pas si un des deux côtés va effectivement finir par fermer définitivement le robinet. Mais si ça arrive, le prix du gaz, il n'aura pas fini de monter en hiver. Se rendant compte de l'existence de ce problème, on a quand même le gouvernement qui a eu une nouvelle idée pour protéger la population et les finances de l'État. Il a pris des mesures fortes. Donc une centrale à charbon est rouverte en catastrophe. Certaines entreprises vont être en baissant le chauffage chez eux. Je serais curieux de voir le résultat cet hiver. En conclusion pour tout ça, je suis incapable de mettre vraiment un nom sur l'idéologie qui gouverne tout ce système. En tout cas, c'est pas le libéralisme ou l'ultra-libéralisme, c'est juste quelque chose décidé par l'Union européenne et exécuté maladroitement, avec le sourire, par les gouvernements français. Et ça marche pas. Je ne sais pas comment votre facture d'électricité à vous a augmenté depuis 10 ans, parce qu'il y a plus de 80 fournisseurs alternatifs à EDF maintenant. Je ne sais pas quel contrat vous avez signé chez qui, je ne sais pas quelles conditions s'appliquent pour vous. Mais si vous voulez être sûr de pouvoir encore chauffer les prochains hivers, pour des factures qui ne soient pas exorbitantes, je vous conseille quand même très rapidement d'isoler votre logement au maximum et de vous chauffer avec des pompes à chaleur, du solaire thermique, de la géothermie, ou alors investir dans les vêtements chauds. Parce que jusque-là, il n'y a aucun problème structurel qui est résolu. Il n'y a pas de garantie aujourd'hui que ça ne se reproduise pas. Et après tout, je n'ai pas fait la liste de tous les paradoxes intrinsèques à la structure mise en place. Mais au moins, si vous avez réussi à comprendre les deux parties de mes explications, vous êtes en mesure de comprendre quelle source d'énergie produit, à quel prix, dans quelles conditions, et quelle surcouche de règlement s'applique chez nous pour complexifier tout ça. J'en ai fini. Maintenant, à nouveau, petite séance de questions, si vous en avez.
Alors, je commence. J'avais une question tout à fait par rapport à ce que tu disais au début, que la France a surdimensionné le nombre de centrales, le nombre de centrales nucléaires. Sachant qu'ils avaient déjà forcément prévu le coût de maintenance, enfin, j'imagine qu'ils avaient prévu. Pourquoi, toi, d'après toi ? Est-ce que c'était parce que c'était pour utiliser après, pour faire un peu hors sujet, pour utiliser après du matériau pour le côté militaire, ou tout simplement ils avaient surdimensionné, tout simplement mal calculé ?
Alors, non, absolument pas, parce que les bombes atomiques françaises ont été développées et construites bien avant la première centrale. Et de plus, les centrales nucléaires françaises ne sont absolument pas adaptées pour fournir le plutonium, qui est celui qui est nécessaire pour la bombe atomique. Donc non, les centrales françaises ne permettent pas de faire des bombes. C'est juste que la demande en électricité croissait encore il y a 50 ans. Et donc l'État s'attendait à ce que ça continue de croître. Et donc l'État a commencé à mettre en chantier des tas de centrales nucléaires. Et finalement, quand toutes ces centrales nucléaires ont été finies de construire, on s'est rendu compte que la demande d'électricité n'avait pas augmenté autant que ce qui était prévu 10, 20 ou 30 ans avant. Et en plus, la France a été désindustrialisée, a un peu lancé son mouvement. Donc, mon industrie, c'est souvent moins d'énergie. C'est pour ça qu'il y a eu un mauvais calcul.
Ok, merci. HK, tu veux poser ta question ?
Il est encore au sport.
Bon, alors je la pose pour toi. Alors, HK qui nous demande, j'ai peut-être raté, mais est-ce que EDF répercute la perte de son électricité revendue à perte sur les factures de ses clients ?
De fait, oui. EDF est obligé de le faire, à minima en partie. C'est pour ça d'ailleurs que, enfin, au début, EDF ne le faisait pas vraiment, parce que EDF, c'est aussi un peu l'État qui décide comment est-ce que EDF fonctionne. Donc quand il a été décidé de mettre en place l'AREN, ce fameux système tormenté, ça a juste fait moins d'argent pour EDF. Au bout d'un moment, EDF a fini par se trouver un peu en difficulté financière à cause de ça. Et c'est à ce moment-là où l'État s'est dit, bon allez, on va augmenter le prix de l'électricité pour tout le monde. Donc maintenant, tout le monde, tous les consommateurs payent plus cher l'électricité. Donc, d'une certaine façon, ça a été fini par ce surcoût. Le surcoût de l'AREN pour EDF finit par être répercuté sur la facture de tout le monde.
Ok. Là, c'est moi qui repose une question. Les choix stratégiques sur l'énergie ne devraient-ils pas être pris avec une vision, par exemple, à, je sais pas, minimum 15 ans, et pas remis en gros tous les 4 matins en fonction des mandats électoraux et en fonction des visions de droite ou de gauche ?
J'ai tendance à dire que non, puisqu'on est dans un système avec beaucoup de nucléaire, et a priori, la France entend garder quand même une grosse part de nucléaire. Ça veut dire qu'il faut au moins prévoir 30 ans à l'avance, si on veut vraiment fonctionner efficacement. D'ailleurs, même 30 ans, c'est peut-être un peu juste.
Oui, parce que entre la construction et le coût et l'entretien et le démantèlement, c'est 30 ans, c'est le minimum. Enfin, surtout même pour la vie d'une centrale, c'est 30 ans de minimum, hein, c'est ça?
Non. Ce qui a été prévu quand les centrales nucléaires françaises ont été construites, c'est qu'elles aient une durée de vie minimum de 40 ans.
Oui, donc du coup, il faut assurer la maintenance pour 40 ans et avoir cet
Mais c'est pas juste
aspect
ça.
financier.
Parce que là, a priori, le gouvernement a décidé de renouveler le parc nucléaire. Parce que d'ici 2050, à peu près, il est prévu que à peu près tout le parc nucléaire actuel soit mis à l'arrêt, plus ou moins, puisque on suppose que les centrales n'iront sans doute pas au-delà de 60 ans. C'est pas impossible qu'elles aillent au-delà de 60 ans, mais c'est pas une hypothèse très sûre à prendre. Donc, pour l'instant, ce qui est prévu, c'est que d'ici 30 ans, 2050, toutes les centrales actuelles soient mises à l'arrêt. Et maintenant, on décide de se remettre à vraiment construire de nouvelles centrales nucléaires. Et si vraiment on est très motivé et que la France s'y met à fond pour construire des maximum de centrales nucléaires dans les 30 prochaines années, les nouvelles centrales, le nombre qu'on va construire ne suffira pas à compenser l'intégralité des centrales qui vont être mises à l'arrêt. Donc c'est-à-dire même en construisant un maximum de centrales nucléaires, en prévoyant 30 ans à l'avance, il est possible qu'on ne réussisse pas à renouveler tout le parc nucléaire.
Oh, j'en profite, je triche un peu parce qu'il y a d'autres questions, mais c'est dans la continuité de celle-là. C'est qu'est-ce que tu penses justement de ce qu'il avait annoncé avec les fameux mini réacteurs, les toutes petites centrales qui pourraient servir à, ben, j'imagine, à compléter et peut-être plus facilement constructibles et surtout plus facilement maintenables.
C'est forcément ces réacteurs, ces petits réacteurs modulaires sont beaucoup plus rapides à être construits. On parle pas vraiment du même niveau de coût, du même même vitesse de déploiement, mais c'est pas pour l'instant c'est vraiment encore au stade de la recherche, c'est-à-dire que sans doute qu'il pourrait exister à l'avenir ce genre de réacteurs fabriqués en usine, mais à condition que la volonté politique se maintienne sur ce projet. Et du coup, ils arriveront dans 20 ans, quoi, sans doute. Sachant que, oui, évidemment, que si on peut rajouter des petites centrales nucléaires en plus des grosses, bah, ça va aider à vraiment renouveler le parc nucléaire. Mais il n'est pas prévu vraiment uniquement ce qu'on construire des petites centrales nucléaires. En même temps, ce serait un peu risqué de se concentrer sur quelque chose qu'on n'a pas encore fait, quoi, qui est un temps de projet.
Oui, moi ça je le voyais en mode plutôt tampon quoi pour faire en attendant après les nouvelles grosses générations, etc. Bref. Je passe sur la question de yaourt. Production doit être égale à la consommation. En pratique, elle doit être légèrement supérieure. Point d'interrogation. Que faisons-nous du surplus? Je crois que tu avais un peu répondu, mais je te laisse éventuellement apporter les précisions.
Non, la production ne doit pas être légèrement supérieure à la consommation. En pratique, la production et la consommation sont à tout instant les mêmes. En fait, ça se compte en hertz sur les réseaux. Le réseau, il est vraiment tout le temps supposé rester à 50 Hz. Et donc, si à un moment la consommation augmente, la fréquence baisse, à moins d'essayer d'augmenter la production. Si par contre il y a un déséquilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire que la production est supérieure à la demande, la fréquence va augmenter, donc on va dépasser les 50 Hz. L'idée, c'est de toujours rester à 50 Hz. Et donc les petites variations, en fait, c'est inférieur à 0,1 Hz de constellation en marge. En fait, si à la limite, si on veut, on peut dire que la production doit être un peu supérieure à la consommation parce qu'il y a les pertes en ligne, d'accord, sur le transport. Mais en fait, l'idée, c'est que toujours le réseau se maintienne à 50 Hz, tout simplement. Et donc, la production doit toujours être égale à la consommation modulo les pertes de transport et de distribution.
Du coup, la question où, en fait, où il dit que faisons-nous de surplus, c'est ce que tu disais, en fait, on vend ça aux copains, quoi. Enfin, on va payer à côté.
Quand on a du surplus, effectivement, on le vend. Enfin, c'est prévu à l'avance. Hein. C'est pas d'un coup on a du surplus et on se demande ce qu'on va en faire. Non, on a prévu à l'avance de produire plus. Parce qu'à l'avance, il y a des gens qui ont demandé à ce qu'on leur produise pour eux, quand on leur vende le truc. Et du coup, oui, on file ça aux copains à côté, quoi.
Ok. Alors, après, question de Twister. Connaît-on, 1, le prix de l'investissement du passage du chauffage électrique au passage de la pompe à chaleur? Et question 2, en combien de temps on a son retour sur investissement? Petite question pratique.
Ah bah, ça, j'en ai absolument aucune idée du prix de passage de l'un à l'autre. Et ça dépend aussi beaucoup de l'isolation du logement et de la température à laquelle vous chauffez. Parce que si vous avez pour habitude de chauffer très peu, comme moi, bon, forcément, le retour sur investissement il va prendre beaucoup plus de temps. Par contre, si vous aimez bien être dans une petite atmosphère, une ambiance à 27 degrés, avec une passoire thermique, ouais, l'investissement il va être très rapide à être rentabilisé. Là.
Ok. Là,
franchement, c'est à vous de faire les calculs chez vous. Regardez combien ça vous coûte, l'électricité. Regardez combien vous consommez en chauffage spécifiquement. Dites-vous qu'une pompe à chaleur, ça va consommer seulement un tiers ou un quart de ce que consomme un radiateur électrique. Faites un calcul.
Mais avec le vrai bon conseil, en effet, une isolation avant tout. Question de Dibéry. En partant du principe de sanctionner la Russie, l'Union européenne n'aurait-elle pas mieux fait d'appliquer toutes les sanctions, sauf celles concernant les importations d'énergie, ou bien de prévoir une diversification des approvisionnements étalés sur plusieurs années,
De manière générale, ce que j'en ai compris, c'est que les sanctions ne servent pas à grand-chose, quelles qu'elles soient. De toute façon, à minima, parce que dans un sens comme dans l'autre, il y a des moyens de contournement. Donc si on n'a pas envie d'importer leurs produits, bah finalement on va quand même importer leurs produits, mais de manière détournée. Et si on n'a pas envie de leur vendre nos produits, bah, on va quand même leur vendre nos produits, mais de manière toujours détournée. Et quand bien même il y a d'autres acheteurs et d'autres vendeurs, enfin, l'Europe c'est pas non plus la seule chose qui existe au monde. Est-ce que pour ce qui est de diversification d'approvisionnement, alors c'est prévu. En fait, il y a maintenant dans l'Europe deux choses. D'une part, il y a plein de pays qui commencent à se dire en fait, il faudrait qu'on utilise moins de gaz, plus de autre chose. Alors, autre chose, en Allemagne par exemple, ça veut dire on va utiliser plus de charbon. Et puis, il y a pour ceux qui continuent à utiliser du gaz, d'un coup, ils se rendent compte, ah, ce serait quand même sympa si on avait des fournisseurs alternatifs du coup, qui puissent prendre le relais de la Russie. Enfin, ça, il reste limité. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui va sans doute se faire sur les prochaines années. Ça va durer la dépendance au gaz russe, d'une manière comme d'une autre. Mais il va falloir construire des nouvelles installations, passer de nouveaux contrats, et ça ne sera pas fait cet hiver.
Ok. Et question de, question de Fouca. Quelle aurait été la sanction par l'UE si la France n'avait pas artificiellement soumis EDF à la concurrence? Connaît-on des lobbies qui ont poussé à la privatisation d'EDF? Publication par l'Union européenne.
Est-ce que je peux répéter, s'il te plaît?
Alors, je te le refais. Quelle aurait été la sanction par l'UE si la France n'avait pas artificiellement soumis EDF à la concurrence? Connaît-on du coup?
Ah, et à quel point qu'est-ce que l'UE aurait fait à la France?
Voilà.
C'est-à-dire que la France est légalement obligée d'appliquer les directives européennes comme n'importe quel pays. Donc si la France ne veut pas, bah, il me semble qu'il y a des amendes qui se chiffrent à je ne sais pas combien. En fait, il y a l'UE, quand elle passe une directive, elle laisse les pays décider à quelle vitesse, au bout de combien de temps est-ce qu'elles ont envie d'appliquer la directive donnée. Et donc, si ça tarde trop, au bout d'un moment, lui commence à dire, bon, il va falloir se décider, on va fixer une date. Et si à la date, la dite date, bah, la directive n'est toujours pas appliquée, bah, y a pour chaque jour de retard, tant et tant d'euros d'amende, je ne sais pas le montant.
Et dans la question secondaire, connaît-on, toi, est-ce que tu aurais entendu parler de lobby donc, qui ont poussé la privatisation d'EDF? Ça te parle?
Bah, j'imagine les acteurs privés qui du coup, ont créé leur petite entreprise de grossiste. Peut-être que Total a joué, je ne saurais pas dire. Et il me semble, mais c'est pas juste des lobbies, attention, parce qu'il me semble bien que les Allemands, ils ont pas mal poussé pour ce genre de système. Donc c'est pas juste des entreprises. Il y en a qui trouvent ça très pertinent de gêner un peu le copain.
T'as une bonne question de Twister. Le Linky n'est-il pas la solution à l'évitement au blackout? C'est vrai que c'est pas bête. Solution bien anticipée à l'avance, puisque la limitation par les délestages fait partie intégrante du contrat désormais. Point d'interrogation.
Eh bien, le délestage, alors pour cet hiver, c'est quelque chose qui est prévu. Il est probable que, à un moment, cet hiver, il y ait un certain nombre de personnes qui se retrouvent sans électricité pendant maximum 2 heures. Et on fait tourner. Un coup, c'est les uns, un coup, c'est les autres. Jusqu'à ce que le stress d'approvisionnement soit passé. Mais ça, en fait, ça dépend de la fourniture en gaz que va recevoir l'Europe par la Russie. Parce que c'est pas encore tout à fait fixé, ça. À quel point est-ce que les réserves vont pouvoir être remplies. Ça va dépendre de la météo aussi. Est-ce que l'hiver sera très froid ou pas très froid? Et ça va aussi dépendre du nombre de centrales nucléaires qui vont pouvoir être remis en état de fonctionnement d'ici cet hiver. D'ici que, ça y est, les premières grandes vagues de froid arrivent. Linky, dans tout ça, ça a permis, je crois, de collecter tout un tas de données pour permettre à RTE de savoir qui consomme quoi, quand, pourquoi. Du coup, c'est sans doute comme ça que les délestages sont prévus par l'intermédiaire des compteurs Linky. Du coup, peut-on dire que Linky va aider à sauver la situation? Oui, possiblement. Si les délestages sont nécessaires, sans doute que ce sera fait par l'intermédiaire des compteurs Linky. Mais a priori, la situation, c'est le plus probable, c'est que quand même, pour cet hiver, les coupures d'électricité soient rares. On parle peut-être de 1, 2, peut-être 3 dans le scénario moyen.
Ok, écoute, là pour l'instant, plus de questions. Donc si tu veux continuer, feu vert.
Continuer sur quoi?
Tu as fini là au niveau de ta présentation? Tu veux qu'on passe après sur les questions en mode ouvert ou tu nous dis?
Ah bah si tu veux, je recommence.
non, mais c'est de ton côté, c'était bon pour la partie présentation.
Oui, c'est tout. Je montrerai tout ce que je voulais montrer.
Parfait. Du coup, on va passer donc sur la deuxième partie, le mode ouvert, avec, je pense, les questions. Alors là, vous pouvez y aller, hein, toujours pareil, dans le canal dédié. Et soit vous pouvez prendre le micro, comme vous voulez.
Bah après, j'ai l'impression quand même que les questions ont toutes été déposées avec la partie 1 et partie 2. Du coup, est-ce qu'on mettrait pas juste fin au livre blanc, tout simplement? Et après, on laisse une discussion, débat un peu plus chill.
On laisse juste quelques... Parce que je vois qu'il y a Tropine qui est en train d'écrire. Déjà, juste en attendant que Tropine fasse un petit retour à la petite question, déjà bravo pour les précisions que tu nous as apportées, c'était bien clair, et graphique aussi, donc beau travail. Alors, question de Tropine. Greenpeace n'aurait-il pas été financé par les lobbies du gaz?
Pose cette question. Moi, j'en sais rien. Il me semble bien que Greenpeace en France est financé par les Allemands. Il me semble bien que Greenpeace, ils ont eux-mêmes investi dans les énergies renouvelables pour en construire quelques-unes. Donc, ils sont eux-mêmes un peu un lobby pour anti-nucléaire, anti-fossile, et donc pro-eux-mêmes. Est-ce que le gaz. Enfin, ça, c'est pas impossible. Hein. Il me semble bien que. C'est pas impossible qu'il y ait des accointances.
Alors, il y a un élément de réponse par rapport à Greenpeace, c'est que en Allemagne, ils ont une filiale qui s'appelait Greenpeace Energy, qui a été renommée depuis
Ah oui, il
parce
y avait
que
ça.
ça faisait mauvaise presse, puisque c'était une filiale de Greenpeace qui revendait donc de l'énergie estampillée verte. Et en fait, c'était eux-mêmes qui décidaient ce qui était vert ou pas. Et ils disaient grosso modo que le gaz naturel, c'était vert, tampon, hop, et c'était une filiale qui vendait que du gaz russe.
Oui, il y a ça. Parce que du coup, je ne sais pas si c'est un lobby qui a donné de l'argent à Greenpeace, mais en tout cas, oui, c'est sûr que Greenpeace a aussi un certain nombre d'intérêts dans le gaz lui-même. Alors, il me semble bien que Greenpeace, c'est un fournisseur d'énergie, et Greenpeace a fait une évaluation pour savoir quels sont les meilleurs fournisseurs d'énergie, et aux surprises, Greenpeace a trouvé que Greenpeace est le meilleur fournisseur d'énergie. Donc Greenpeace est très fier de Greenpeace.
Une question de DeepBerry. Alors, il faudra que tu jettes le petit coup d'œil dans le fil de questions parce qu'en gros, c'est la question, c'est d'après ce site, et tu pourras jeter le coup d'œil, le Soudan, la Libye, le Liban, l'Iran et l'Éthiopie ont les prix de l'électricité les moins chers du monde. Pourquoi?
Le fil de question, où est-ce qu'il est? Là.
Et c'est la dernière question.
Alors, pourquoi est-ce que ces pays-là spécifiquement ont les prix moins chers du monde? J'en sais rien. Vraiment, il existe quasiment 200 pays sur cette planète, donc je ne sais pas pourquoi bidule les machins tel ou tel réseau d'électricité. Souvent, quand même, il faut le dire, les pays qui ont l'électricité moins chère, c'est ceux qui ont le plus de charbon. Ça pourrait jouer.
Du coup, pas d'autres questions. Est-ce que n'hésitez pas encore si vous avez des questions? Sinon, comme disait Zilot, on va clôturer cette première partie et passer sur la partie questions libres.
Ludovic, apparemment, aimerait savoir quelque chose. En fait, le Shift Project et Jean-Marc Jancovici, ils ont fait beaucoup, beaucoup de travaux. Et donc, oui, je me suis. D'ailleurs, c'est une de mes sources, Jancovici, pour tout ce que je raconte. Oui, j'ai longuement écouté ce qu'ils avaient à dire. Alors, du coup, sur quels travaux? Parce que j'ai pas non plus tout lu. Je sais pas. Ce qu'on peut peut-être dire sur les travaux de Jancovici concernant les prix d'électricité, c'est qu'ils sont peut-être partiellement non à jour. Parce que il a fait ses analyses quand même il y a un certain nombre d'années et peut-être qu'il n'a pas fait d'actualisation de tout. Donc pour le bouclier tarifaire, sachez que ça couvre tout le monde, hein, vraiment. L'État paye tous les fournisseurs d'électricité pour qu'ils maintiennent leur prix bas. Donc pour l'instant, enfin, ce compte-là, être chez EDF ou être chez quelqu'un d'autre, ça ne fait rien puisque tout le monde bénéficie du bouclier tarifaire. En revanche, vu que ce système est complètement stupide, à la base, moi je vous conseille à tout le monde de faire un acte citoyen et d'aller chez EDF.
Bonne question de la part d'Auto Énervé. Comment devrait-on s'y prendre si nous voulions sauver EDF ?
Bah, l'État a un peu lancé dans ce combat, apparemment. Parce que... Apparemment, Macron s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes. Et donc, il a décidé de renationaliser à 100% EDF. C'est quelque chose qui est en cours, sauf que l'Union européenne dit non. Donc, ça pourrait aider, peut-être, de renationaliser à 100% EDF. L'État pourrait peut-être gérer correctement le truc. Mais bon, tant que lui dire non, ce sera sans doute non. Et en fait, si on veut sauver EDF, il faut se débarrasser de ce système. Ou alors, on peut augmenter très largement les prix d'électricité pour tout le monde. C'est-à-dire, on peut refaire ce qui avait été fait il y a quelques années. Et maintenant, on passe le tarif de base, plutôt que ce soit aux alentours de 50€, on le passe à 60. Une fois qu'on l'a passé à 60, on passe à 70. Et le tarif de base, ensuite, on le monte à 80€. Enfin, au fur et à mesure qu'on monte le prix de l'électricité, on finira bien par atteindre un prix où EDF retrouve son compte. Quoi. Ou alors, on décide que... Là, en fait, c'est très simple, sinon on décide de supprimer l'AREN. Si on supprime l'AREN, tout le système va se remettre suivant la logique du marché libre et non faussé. Et rien que ça, ça va déjà en fait, remettre de l'ordre dans à peu près tout. Ça voudra dire par contre que tous les fournisseurs alternatifs vont faire faillite à peu près. Peut-être qu'il y en a un ou deux qui ont trouvé une combine, je ne sais pas laquelle, mais... Si on supprime l'AREN, EDF n'a plus le problème.
Non, on attend encore peut-être au TNRV, sinon du coup on va pouvoir clôturer donc, le livre blanc pour ce soir. Est-ce que tu as peut-être, j'allais dire, une conclusion à toi à apporter sur justement par rapport à ce que tu nous as dit?
Ouais. Voter Jadot, ça me semble bien.
Bonne conclusion.
Dit sans aucune ironie, bien entendu.